Oui, une nouvelle m'a intéressée. C'est une apparemment une percée majeure, une première mondiale. C'est ce que dit en tout cas la société pharmaceutique IMV, qui est une entreprise de la région de Québec, dont le siège social est à Halifax, et qui disent qu'ils ont, en fait, ils viennent de dévoiler une étude où ils affirment qu'on peut combattre le cancer en se servant de l'immunothérapie. Ils disent en fait qu'ils ont fait des tests, une étude sur une vingtaine de patientes atteinte d'un cancer de l'ovaire, cancer avancé, et qui aurait donné des résultats très encourageants avec un taux de réponse de longue durée observé de 21%. C'est à peu près le double de ce qu'on voit avec la chimiothérapie à laquelle on commence à être un peu habitué. Je trouvais que c'était intéressant et je voulais en discuter avec le docteur en biochimie, professeur émérite à l'UQAM, directeur scientifique de la chaire prévention et traitement du cancer à l'UQAM, Richard Béliveau. Bonjour, docteur Béliveau.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste de la question. On le sait que le Québec, le cancer touche près d'une personne sur deux. C'est toujours ça, ici oui. Comme au Canada. Donc, c'est important, dès qu'il y a une nouvelle du genre, de voir qu'est-ce qu'on peut considérer de ça. Est-ce qu'effectivement, c'est une première mondiale, une percée à ce point majeur?
Oui, bien, vous savez, l'immunothérapie, c'est pas une approche nouvelle. L'immunothérapie, je vous rappelle, notre premier ministre, Robert Bourassa, avait été traité en immunothérapie dans les années 90. Ça fait longtemps qu'on sait que le système immunitaire joue un rôle extrêmement important dans le développement du cancer. Aujourd'hui, classiquement, on traite le cancer de trois façons: chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie. Là, l'immunothérapie apparaît comme une nouvelle approche qui s'ajoute aux trois approches traditionnelles de traitement du cancer. Essentiellement, l'immunothérapie, ce que ça fait, c'est que l'immunothérapie vise à renforcer ou à rétablir la capacité du système immunitaire à combattre le cancer. Le système immunitaire, une cellule cancéreuse, il faut comprendre que c'est une cellule anormale. C'est une cellule qui a accumulé un ensemble de mutations. Les cancers, c'est pas juste une mutation, c'est un ensemble de mutations dans le génome de la cellule. Quand on regarde une cellule cancéreuse au microscope, elle va avoir 4 chromosomes 8, elle va avoir pas de chromosome 21, elle va avoir des chromosomes normalement qui devraient être juste en paire. Là, elle va avoir des chromosomes en 4 copies, elle va manquer de chromosomes. C'est une cellule qui est profondément anormale, on appelle ça l'aneuploïdie. C'est une cellule qui est très désorganisée. Le système immunitaire, son rôle, c'est de détecter ces cellules anormales-là et normalement, il va éliminer ces cellules-là. Ce que la cellule cancéreuse fait, c'est qu'elle joue à cache-cache avec le système immunitaire et elle se camoufle. Elle donne l'apparence à sa surface, on appelle ça des antigènes de surface, elle se camoufle pour avoir l'air d'une cellule normale et le système immunitaire ne voit pas certaines de ces cellules-là qui sont maintenant camouflées et ne les élimine pas. Ce que l'immunothérapie fait essentiellement, c'est qu'elle démasque les cellules cancéreuses de leur masque de cellules normales et le système immunitaire retrouve sa capacité intrinsèque d'éliminer des cellules anormales. Ça, c'est l'approche globale de l'immunothérapie.
Et comment ça agit alors? Pourquoi la chimio fait pas ça, mais l'immunothérapie le fait?
Ben, l'immunothérapie, c'est parce qu'elle utilise les lymphocytes, elle utilise les cellules du sang. C'est une thérapie qui... Le système immunitaire, ce sont des molécules relarguées par des cellules immunitaires. Ce sont des cellules immunitaires qui ont vraiment la fonction de détruire physiquement. Elles percent des trous dans les cellules cancéreuses, elles les intoxiquent, elles les forcent à se suicider. On appelle ça de l'apoptose. Elles forcent la destruction physique des cellules. Et ça, c'est le système immunitaire qui fait ça. Il y a plusieurs façons qu'elles vont... L'immunothérapie utilise plusieurs approches. L'approche classique, celle avec laquelle M. Bourassa a été traité, celle qu'on utilisait au début, c'est un peu une immunothérapie non spécifique. C'est là qu'on a utilisé des approches avec l'interféron ou avec des interleukines. C'est une approche qui était non spécifique. La grosse révolution dont on parle maintenant, avec il y a des gros congrès là, présentement en oncologie où l'immunothérapie est présentée vraiment comme une révolution. Il y a deux types d'approches. La première approche, c'est une approche avec des anticorps. Une approche simple d'un point de vue pharmacologique où on utilise ce qu'on appelle des inhibiteurs du point de contrôle immunitaire. Ce serait assez compliqué à expliquer, mais disons que c'est un peu des anticorps qui inhibe, qui bloque le masque que la cellule cancéreuse utilise pour ne pas être reconnue par le système immunitaire. C'est un peu ça. C'est des antigènes qu'on appelle PD1 et PDL1. Il y a des entreprises, des chercheurs qui ont développé des anticorps contre ces protéines-là. Et lorsqu'on donne ça à des patients dans des grandes études cliniques là, extrêmement importantes, on a des résultats très spectaculaires avec des cancers pour lesquels on n'avait pas de réponse. Le mélanome, par exemple, le cancer du poumon non à petites cellules, le lymphome Hodgkinien, le cancer du rein, sont quatre cancers pour lesquels la réponse immunitaire, la réponse clinique est pas très bonne avec les approches classiques. Et ça, c'est des cancers qui répondent très bien aux approches d'immunothérapie par inhibiteur du point de contrôle immunitaire.
Ça c'est formidable pour les patients, là.
C'est une révolution, comme je dis, pour des cancers pour lesquels on n'avait pas de réponse. L'autre approche qui est très nouvelle aussi, c'est une approche qui, elle, n'est pas moléculaire, mais qui est une approche cellulaire. Et ça, on appelle ça des immunothérapies, et là, c'est un peu compliqué, C-A-R-T, on appelle ça CAR-T. Les immunothérapies de type CAR-T sont, ça c'est plus compliqué, ce sont des prélèvements qu'on fait au niveau des patients et on isole des lymphocytes T et on les modifie génétiquement pour que ces lymphocytes-là reconnaissent des antigènes exprimés à la surface des cellules cancéreuses. On amplifie ces lymphocytes-là et on les réinjecte chez les patients. Et là, dans le cas des leucémies et dans le cas des lymphomes, on a des réponses très spectaculaires. On a des 70 à 90 % de rémission pour des tumeurs hématologiques comme les lymphomes folliculaires B et les leucémies lymphoïdes chroniques ou aiguës. On a des réponses très, très, très spectaculaires avec ces thérapies-là. Wow. Donc, c'est une révolution dans l'approche. Mais c'est pas quand même pas une promenade dans le parc. Là. Souvent, quand c'est présenté comme la thérapie universelle contre le cancer. Le cancer, c'est une maladie complexe. Il n'y aura pas de thérapie qui va être la thérapie universelle du cancer. La chimiothérapie a encore sa place, la radiothérapie a encore sa place dans certains cancers. La chirurgie est la première chose qu'il faut faire. C'est pas une approche miraculeuse. Le terme miracle, c'est pas un terme scientifique. Là. C'est une approche additionnelle qui vient s'ajouter à l'arsenal d'outils thérapeutiques qu'on a pour traiter le cancer. Mm-hmm. Par exemple, c'est surtout, il y a des effets secondaires. Quand les gens disent qu'il n'y a pas d'effets secondaires, il y a des effets secondaires, il y a des effets de, il y a souvent des toxicités neurologiques, il y a des effets associés à la fièvre. Vu que vous suractivez le système immunitaire, il y a des effets qui sont des effets secondaires qui sont de type grippo, là, de la fièvre, des atteintes rénales et ainsi de suite. Donc, il y a des effets secondaires. C'est pas que ça n'a pas d'effet secondaire, mais les effets secondaires sont souvent moins spectaculaires que ce qu'on observe avec
la chimio ou la radio. Richard Béliveau, restez avec nous, on doit aller à la pause, mais on revient tout de suite
après. OK.
Je suis en compagnie du docteur en biochimie Richard Béliveau. On parle de l'espoir que peut représenter l'immunothérapie pour les gens qui ont le cancer. Et c'est vrai qu'on a beaucoup avancé, hein, Richard Béliveau, là-dessus. En 2005, comme vous avez lancé les aliments contre le cancer, on ignorait beaucoup de choses. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, on parle d'immunothérapie comme de quelque chose qui pourrait certainement s'apparenter à une révolution. Même si il y a Nicole qui m'écrit, puis elle me dit, moi, l'immunothérapie, ça n'a pas été magique pour moi. Cancer, poumon, petite cellule de type 3A. Après 4 traitements d'immunothérapie, j'ai dû arrêter. J'avais trop d'effets secondaires.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis il faut se rendre compte que c'est pas miraculeux. C'est une proportion des patients qui répondent. C'est pas 100%. C'est de 20 à 80%, dépendant des indications.
Mais est-ce qu'on peut penser que l'immunothérapie prendrait le dessus sur la chimio? Parce que la chimio a énormément d'effets secondaires aussi.
Oui, mais la chimio fonctionne bien dans beaucoup de cas aussi. Là. Ça va être une combinaison. Je pense que les résultats les plus spectaculaires qu'on a en clinique, c'est quand on combine ces approches-là. Il faut se rappeler, finalement, que les immunothérapies, certaines d'entre elles, les CAR-T, c'est extrêmement dispendieux. On parle de centaines de milliers de dollars par traitement. Là. Fait que même si on développe des thérapies miracles comme ça, il va falloir les gérer d'un point de vue système de santé publique. Si on n'a pas les moyens d'avoir ces thérapies-là à l'échelle globale, il faut que ça soit intégré dans une approche plus globale là, du traitement du cancer. C'est des progrès. C'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées ou la médecine personnalisée. Avec les progrès qu'on a fait en génomique, en protéomique dans les dernières années, on est capable d'établir des génotypes, des phénotypes des cellules cancéreuses et de personnaliser davantage les traitements. Ces approches-là se situent dans une approche plus personnalisée du traitement du cancer.
Mais ce que vous nous dites, c'est que le gros problème, finalement, on revient vite là, hein, c'est l'argent.
La prévention. Ça coûte...
Oui, la prévention. La prévention. Ouais,
les gens ne font pas de prévention. On veut des thérapies miracles, puis les gens oublient que c'est la Société canadienne du cancer qui le dit. Là, c'est deux tiers des cancers qu'on peut prévenir avec des changements simples au mode de vie. Ne pas fumer, être mince, manger beaucoup de végétaux, bouger beaucoup. Tout ça, c'est des réductions pour la majorité. Pour les grands tueurs, cancer du poumon, cancer du côlon, cancer du sein, de la prostate, ce sont des réductions spectaculaires du risque de cancer. Fait qu'il faut s'enthousiasmer des progrès qui se font en thérapie du cancer, mais il faut également se rappeler que le cancer est une maladie chronique qui prend des décennies à se développer et que votre hygiène de vie joue un rôle déterminant, un peu comme l'immunothérapie. Là, quand vous avez une hygiène de vie adéquate, vous ne changez pas l'apparition spontanée, aléatoire des tumeurs, mais vous ralentissez la vitesse avec laquelle elles vont se développer dans votre corps. Faire de la prévention, c'est un peu aider aussi votre système immunitaire à lui-même à combattre les tumeurs dont vous êtes tous porteurs à l'âge adulte. Il faut se rappeler là, de ces principes de base-là.
Merci de nous le rappeler. Une dernière question, Richard Béliveau, puisque vous êtes, on parle de système immunitaire et en ce moment, on est en pleine panique par rapport au coronavirus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Richard?
Je vais vous dire ce que je dis dans mes conférences. Vous vous rappelez de la listériose il y a quelques années?
Oui.
Moi, j'appelais ça l'hystérie de la listériose. Il y a eu, je me rappelle pas, 23 personnes au Canada qui étaient décédées de la listériose pendant les 6 semaines que ça avait duré. Pendant la même période, il y avait 16 000 personnes qui étaient décédées du cancer. Écoutez, c'est une grippe, là. Le taux de mortalité est en bas de 5 %. La grande majorité des patients qui sont morts sont des gens âgés de plus de 70 et 80 ans. Donc, c'est une grippe. La prévention de la grippe, ça s'applique. Les mêmes principes restent valables. Si vous n'êtes pas évité de vous exposer à quelqu'un qui l'a, lavez-vous les mains.
Mais vous, aviez-vous des vacances prévues quelque part, vous? Êtes-vous du genre?
J'ai quelqu'un qui partait au Japon puis il m'a demandé quoi faire. J'ai dit, si c'était moi, je partirais sans même me poser la question. Là, je comprends pas. Je pense qu'il faut, il y a de la santé publique puis la santé individuelle. Il faut appliquer les mêmes principes de précaution au niveau de votre santé pour cette épidémie-là que pour une épidémie de grippe ordinaire. C'est un virus.
Mais oui, puis ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus qu'il faut en tous
pas
les cas.
Pas du tout. Ça m'empêche pas de dormir. Le cancer m'empêche de dormir. Les maladies cardiaques m'empêchent de dormir, mais
pas le coronavirus. Merci beaucoup, Richard Béliveau. Merci bien.